Vous êtes sur RTL.
18h17, l'interview actualité de RTL Soir. Thomas Soto, vous recevez Véronique Fayet, présidente du Secours catholique Caritas France. Secours catholique qui, comme chaque année, propose un état de la pauvreté en France.
Bonsoir Véronique Fayet.
Bonsoir.
Bienvenue dans RTL Soir. Quel est le principal enseignement que vous tirez de ce rapport 2019 sur l'état de la pauvreté ?
Alors ce rapport il sort demain, mais je peux vous dévoiler quand même quelques éléments, parce que d'abord ça fait 20 ans qu'on publie un rapport chaque année, ça fait 20 ans qu'on reçoit grosso modo 1,5 million de personnes dans tous les accueils du Secours catholique.
Donc c'est un vrai thermomètre de terrain de ce qui
Absolument.
Se passe dans la vraie vie.
Et avec des tendances lourdes qui se confirment, donc ce sont des mauvaises nouvelles, parce que la pauvreté ne recule pas du tout. Ceux qui sont le plus touchés, ce sont les familles avec enfants, notamment les familles étrangères avec des enfants, et des enfants à la rue, des gens qui n'ont pas le droit au travail, notamment dans la population étrangère. Donc ce ne sont pas vraiment des très bonnes nouvelles.
Ça veut dire quoi être pauvre en France aujourd'hui ?
Alors ça veut dire beaucoup de choses. La première mesure, c'est la mesure monétaire, donc c'est le seuil de pauvreté. Donc le seuil de pauvreté qui est à 60% du revenu médian, c'est autour de 1000 euros par personne et par mois. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose.
Enfin, l'INSEE a dit là-dessus que c'était plus de 9 millions de personnes il y a quelques jours.
Voilà, c'est plus de 9 millions de personnes. Mais j'ai peur que 9 millions de personnes, ça ne dise plus rien à personne, justement parce que c'est trop gros. Derrière, il y a des situations très différentes. Il peut y avoir des agriculteurs, des personnes avec des toutes petites retraites, des gens qui travaillent avec du travail à temps partiel. Il y a des gens qui ont les minima sociaux, qui ont le chômage, donc c'est très varié. Il y a des gens qui n'ont plus de revenus du tout, soit parce qu'ils n'ont pas le droit à des revenus, c'est le cas des étrangers, soit parce qu'ils ne demandent plus. Et on a dans la population française en général, un tiers des personnes qui devraient avoir le droit au RMI, qui ont droit au RMI et qui ne le demandent plus. C'est trop compliqué,
Parce qu'ils lâchent la rampe.
Oui, alors ils sont découragés, ils en ont marre du contrôle social, et puis surtout, la numérisation de toutes les démarches fait que ça devient trop compliqué et que parfois, ils lâchent prise. Voilà. Donc, on a une population très diverse, mais au-delà de la question monétaire, je pense que ce qu'il faut retenir aussi, c'est que c'est l'ensemble des privations. Parce que quand vous avez un revenu autour de 530 euros médian, ce qui est le cas dans la population.
Et c'est important, 530 euros, 15 euros de moins par rapport à 2017, et 15 euros par mois, c'est énorme quand on vit avec 535 euros par mois.
C'est beaucoup, alors ça veut dire qu'il y a quelques personnes qui gagnent plus, mais il y en a qui gagnent beaucoup moins, et je vous dis, il y a des ménages sans ressources, complètement sans ressources, voilà. Et donc quand vous êtes à ce niveau-là de revenus ou de non-revenus, vous êtes dans la survie, et vous êtes tout le temps en train d'arbitrer des privations. Soit je mange, soit je me loge, soit je me chauffe, soit j'ai des impayés de loyer, voilà, tout le temps dans des arbitrages, et la coupure des liens sociaux, vous n'avez plus d'amis, quand vous n'avez plus d'argent, vous n'avez plus d'amis, vous êtes coupé de votre famille, de vos amis, et vous avez le poids très dur à supporter du regard des autres, du regard de la société, qui en plus, c'est la double peine, dit non seulement vous êtes pauvre, mais en plus vous êtes feignant, fraudeur, et puis vous ne faites pas grand-chose pour vous en sortir. Donc l'humiliation est aussi très forte.
Et ça nous ramène à des sujets qui sont en plein dans l'actualité. Compte tenu de ce que vous constatez sur le terrain, là encore, vous inquiétez de la réforme de l'assurance chômage. C'est un accélérateur de précarité ?
Alors, on est très inquiet, en effet, parce que déjà...
On sait qu'il faudra avoir travaillé plus longtemps et qu'on sera indemnisé moins longtemps. Voilà, c'est des nouvelles règles qui sont...
En gros, c'est ça. Les règles d'assurance changent. Donc, il y a une première règle qui change au mois de novembre et puis une autre sur le calcul de l'allocation qui changera au mois d'avril. Déjà, nous, dans notre population, il y a 2/3 des chômeurs qui ne sont pas indemnisés. Donc, ça risque d'augmenter. Et ça, oui, c'est extrêmement grave. Ça risque de fragiliser une partie de la population. Alors, on ne sait pas encore dans quelle mesure, avec quelle ampleur, mais ça ne sera sûrement pas une bonne nouvelle pour les personnes justement qui ont un travail précaire, intermittent, qui travaillent 2 mois, qui arrêtent, et notamment pour les jeunes qui aujourd'hui n'ont pas le droit au RSA, donc sont sans ressources, et s'ils n'ont plus d'allocation chômage, eux, ils n'ont plus rien.
Et symbole de la fragilité, on apprend aussi qu'avoir un CDI ne protège plus de la pauvreté dans notre pays. Il y a un an, le 13 septembre 2018, Emmanuel Macron présentait son plan pauvreté, et voici ce qu'il disait.
Je pense que nous pouvons, à hauteur d'une génération, éradiquer la grande pauvreté dans notre pays.
Alors, il n'a pas dit que ça se ferait en quelques mois ou en un an, mais est-ce que vous vous sentez aidé par le gouvernement ?
Alors, ce qui nous gêne, c'est qu'il n'y a pas de cohérence d'ensemble. Il n'y a pas de vision d'ensemble. Et justement, comme je vous le disais, les pauvretés sont liées. Vous avez en général peu de revenus, pas de travail, pas de logement, une mauvaise santé, des difficultés d'accès à la qualification professionnelle. Il faudrait une politique très globale et très cohérente. Or, on a actuellement une stratégie de lutte contre la pauvreté qui est bonne, dans laquelle il y a des bonnes choses, qui avance à petits pas, mais qui avance avec une vraie volonté. Mais à côté, on a des politiques qui peuvent être ravageuses, comme celle de la réforme de l'assurance chômage, ou des non-politiques comme le logement, ou la politique du logement d'abord que le gouvernement défend avec vigueur, mais dans laquelle il n'y a pas assez de moyens, et qui fait qu'on a encore des milliers de personnes qui sont mal logées ou sans logement.
Il y a un autre plan qui a été annoncé ce matin, c'est le plan pour une immigration maîtrisée. Nous voulons reprendre le contrôle de notre politique migratoire, a dit Édouard Philippe. Vous avez des mots très fermes sur les politiques migratoires dans votre rapport. Les politiques européennes actuelles relèvent de la non-assistance à personne en danger et constituent un reniement majeur pour notre civilisation.
Oui, absolument. Nous, on voit de très près ces personnes qui fuient leur pays, qui fuient la guerre, qui fuient la misère. On ne migre jamais par plaisir. Il faut quand même se mettre ça dans la tête aussi. Donc, des gens qui arrivent dans des situations de grand danger. Certains perdent la vie dans le long du parcours migratoire et qui arrivent ici dans une situation de fatigue, de fragilité et qui sont très, très mal accueillies, qui se retrouvent à la rue, y compris quand elles ont des enfants. Donc, nous, on a une politique qui est inverse. On dit les personnes qui sont ici, sur le territoire français, on pratique un accueil inconditionnel. On ne leur demande pas d'où ils viennent, ni ce qu'ils ont fait avant, on les accueille.
Et vous en accueillez de plus en plus, ça c'est une tendance qui est marquée depuis 3 ans.
Absolument.
Réformer l'aide médicale d'État ou la PUMA, qui est la sécurité sociale pour les demandeurs d'asile, ça changerait quoi pour les personnes que vous recevez? Parce qu'on sait que tout ça va être un peu durci, on l'a entendu ce matin.
Oui, alors une petite remarque de méthode. Une méthode qui est catastrophique, c'est-à-dire au motif qu'il y a quelques fraudes et quelques irrégularités, pour les migrants ou pour les pauvres, c'est la même chose, eh bien, on stigmatise toute une population et on prend des mesures de durcissement, de contrôle social, qui finalement punissent toute la population, tous les migrants.
Elles sont injustes, ces mesures, selon vous ?
Absolument injustes, inefficaces et absurdes. Prenons un exemple très clair. La PUMA. Donc, les demandeurs d'asile ont droit à la PUMA, donc l'assurance médicale qui permet de se soigner comme tout un chacun.
C'est pour les demandeurs d'asile. Aujourd'hui, ils ont droit le jour où ils s'inscrivent.
Le jour où ils déposent la demande d'asile.
Et là, voilà. Il va y avoir une carence de 3 mois.
Et là, on va instaurer, sous prétexte que pour d'autres catégories de population, il y a une carence de 3 mois, un délai de 3 mois, on va instaurer le même délai. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Ça veut dire que les gens, ils arrivent, ils sont épuisés. Ils ont vécu dans un pays en guerre où ils n'ont pas pu se soigner pendant des mois, parfois, ou mal se soigner. Ils ont vécu un parcours migratoire très fatigant. Ils arrivent, en général, ils sont en mauvais état physique et mental. Ils ont besoin de se soigner. Donc, ils attendent déjà plusieurs mois avant de déposer la demande d'asile. C'est pas immédiat. Ensuite, le jour où ils déposent la demande d'asile, ils attendent 3 mois de plus. Donc, la santé se détériore. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont aller aux urgences. Est-ce qu'on a besoin d'encombrer les urgences un peu plus avec des gens qui auraient pu se soigner plus tôt, mieux, ça aurait coûté sans doute moins cher? Donc c'est vraiment absurde et c'est nuisible.
Mais vous entendez ceux qui disent qu'il faut lutter contre les abus, les fraudes, les soins de confort
mais
avec l'AME et tout ça?
Mais bien sûr, mais ça se fait. Ça se fait. Et donc là, par exemple, il y a une bonne mesure qui dit que pour les bénéficiaires de l'aide médicale d'État, il y aura besoin d'une entente préalable pour certains soins non urgents. C'est très bien,
ça, c'est bien.
Pas choquant. Mais priver, empêcher les gens de se soigner pendant plusieurs mois, c'est absurde parce qu'ils vont aller aux urgences.
Merci beaucoup Véronique Fayet d'être venue dans RTL Soir. Travail très utile dont on aura l'intégralité demain et qu'on trouvera sur votre site, le Secours catholique.
Absolument.
Caritas France. Merci à vous et bonne soirée.
Merci beaucoup.
RTL Soir, 18h26. Dans un instant, Thomas Soto.
Il y aura le rappel des titres, ça va. Et puis il y aura la tempête de RTL Soir. C'est l'œil de Philippe Cavrivière. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Thomas. Bonsoir.
Je crois que vous avez été interpellé cette semaine par cette cagnotte Litchi afin de rassembler 500 000 euros pour faire sortir Patrick Balkany de prison.
Bah oui, c'est beau une grande cause comme ça. Mais moi, ça me pose un problème parce que je choisis toujours une grande cause. Et d'habitude, je donne à l'UNICEF. Et j'arrive pas à trancher. Qu'est-ce qui est le plus injuste? Un enfant qui meurt de faim ou Balkany en prison? Ah, j'hésite, je suis embêté, je sais pas à qui donner, moi.
Bon, bah, il vous reste
quelques secondes
pour y réfléchir. Bah, on se retrouve juste après 18h30 pour l'œil de Philippe Cavrivière. À tout de suite, Philippe.
Bah oui.
Thomas Soto, RTL Soir. Actualité auto, en janvier 2020, les normes d'homologation seront plus sévères en termes de consommation et d'émissions de CO2. Chez Peugeot, les motorisations plus efficientes aux normes de 2020 sont déjà disponibles. Pour prendre dès aujourd'hui une longueur d'avance, rendez-vous chez Peugeot pour profiter de la prime génération 2020 jusqu'à 5 000 euros pour l'achat d'une Peugeot neuve.